Livre 3, chapitre 1, grand 4. Mais si la contagiosité du sacré contribue à expliquer le système des interdits, comment s'explique-t-elle elle-même ? On a cru pouvoir en rendre compte, par les lois bien connues, de l'association des idées. Les sentiments que nous inspire une personne ou une chose s'étendent contagieusement de l'idée de cette chose ou de cette personne aux représentations qui y sont associées, et par suite aux objets que ces représentations expriment. Le respect que nous avons pour un être sacré se communique donc à tout ce qui touche à cet être, à tout ce qui lui ressemble et le rappelle. Sans doute, l'homme cultivé n'est pas dupe de ses associations. Il sait que ses émotions dérivées sont dues à de simples jeux d'images, à des combinaisons toutes mentales, et il ne s'abandonne pas aux superstitions que ses illusions tendent à déterminer. Mais, dit-on, le primitif objective naïvement ses impressions sans les critiquer. Une chose lui inspire-t-il une crainte révérentielle ? Il en conclut qu'une force auguste et redoutable y réside réellement. Il se tient donc à distance de cette chose et la traite comme si elle était sacrée, alors même qu'elle n'a aucun droit à ce titre. Mais c'est oublier que les religions les plus primitives ne sont pas les seules qui aient attribué au caractère sacré cette puissance de propagation. Même dans les cultes les plus récents, il existe un ensemble de rites qui reposent sur ce principe. Toute consécration par voie d'onction ou de lustration ne consiste-t-elle pas à transférer dans un objet profane les vertus sanctifiantes d'un objet sacré ? Il est pourtant difficile de voir dans le catholique éclairé d'aujourd'hui une sorte de sauvage attardé qui continue à être trompé par ses associations d'idées sans que rien dans la nature des choses explique et justifie ses manières de penser. C'est d'ailleurs très arbitrairement que l'on prête aux primitifs cette tendance à objectiver aveuglément toutes ses émotions. Dans sa vie courante, dans le détail de ses occupations laïques, il n'impute pas à une chose les propriétés de sa voisine, ou réciproquement. S'il est moins amoureux que nous de clarté et de distinction, il s'en faut cependant qu'il y ait en lui je ne sais quelle déplorable aptitude à tout brouiller et à tout confondre. Seule la pensée religieuse a un penchant marqué pour ces sortes de confusions. C'est donc bien dans la nature spéciale des choses religieuses, et non dans les lois générales de l'intelligence humaine, qu'il faut aller chercher l'origine de ces prédispositions. Quand une force ou une propriété nous paraît être une partie intégrante, un élément constitutif du sujet en qui elle réside, on ne peut pas se représenter facilement qu'elle s'en détache pour se transporter ailleurs. Un corps se définit par sa masse et sa composition atomique. Aussi ne concevons-nous pas qu'il puisse communiquer, par voie de contact, aucun de ses caractères distinctifs. Mais, au contraire, s'il s'agit d'une force qui a pénétré le corps du dehors, comme rien ne l'y attache, comme elle y est en qualité d'étrangère, il n'y a rien d'irreprésentable à ce qu'elle puisse s'en échapper. C'est ainsi que la chaleur ou l'électricité qu'un objet quelconque a reçu d'une source externe sont transmissibles au milieu ambiant, et l'esprit accepte sans résistance la possibilité de cette transmission. L'extrême facilité avec laquelle les forces religieuses rayonnent et se diffusent n'a donc rien qui doive surprendre si elles sont généralement conçues comme extérieures aux êtres en qui elles résident. Or, c'est bien ce qu'implique la théorie que nous avons proposée. Elles ne sont en effet que des forces collectives, hypostasiées, c'est-à-dire des forces morales. Elles sont faites des idées et des sentiments qu'éveillent en nous le spectacle de la société, non des sensations qui nous viennent du monde physique. Elles sont donc hétérogènes aux choses sensibles, où nous les situons. Elles peuvent bien emprunter à ces choses les formes extérieures et matérielles sous lesquelles elles sont représentées, mais elles ne leur doivent rien de ce qui fait leur efficacité. Elles ne tiennent pas des liens internes aux supports divers sur lesquels elles viennent se poser. Elles n'y ont pas de racines. Suivant un mot que nous avons employé déjà et qui peut le mieux servir à les caractériser, elles y sont surajoutées. Aussi n'y a-t-il pas d'objet qui soit, à l'exclusion de tous les autres, prédestinés à les recevoir. Les plus insignifiants, les plus vulgaires même, peuvent remplir ce rôle. Ce sont des circonstances adventices qui décident quels sont les élus. Qu'on se rappelle en quels termes Codrington parle du mana. C'est, dit-il, Une force qui n'est point fixée sur un objet matériel, mais qui peut être amenée sur presque toute espèce d'objet. De même, le Dakota de Miss Fletcher nous représentait le Wakan comme une sorte de force ambulante qui va et vient à travers le monde, se posant ici ou là, sans se fixer définitivement nulle part. Même la religiosité, qui est inhérente à l'homme, n'a pas un autre caractère. Certes, dans le monde de l'expérience, il n'est pas d'être qui soit plus proche de la source même de toute vie religieuse. Nul n'y participe plus directement, puisque c'est dans les consciences humaines qu'elle s'élabore. Et cependant, nous savons que le principe religieux qui anime l'homme, à savoir l'âme, lui est partiellement extérieur. Mais si les forces religieuses n'ont nulle part de lieu propre, leur mobilité devient aisément explicable. Puisque rien ne les attache aux choses où nous les localisons, il est naturel que, au moindre contact, elles s'en échappent, en dépit d'elles-mêmes, pour ainsi dire, et qu'elles se propagent plus loin. Leur intensité les incite à cette propagation que tout favorise. C'est pourquoi l'âme elle-même, bien qu'elle tienne au corps par des liens tout personnels, menace sans cesse d'en sortir. Tous les orifices, tous les pores de l'organisme sont autant de voies par où elle tend à se répandre et à se diffuser au dehors. Mais nous nous rendrons mieux compte encore du phénomène que nous cherchons à comprendre si, au lieu de considérer la notion de force religieuse toute constituée, nous remontons jusqu'au processus mental dont elle résulte. Nous avons vu, en effet, que le caractère sacré d'un être ne tenait pas à quelqu'un de ses attributs intrinsèques. Ce n'est pas parce que l'animal totémique a tel aspect ou telle propriété qu'il inspire des sentiments religieux. Ceci résulte de causes tout à fait étrangères à la nature de l'objet sur lequel ils viennent se fixer. Ce qui les constitue, ce sont les impressions de réconfort et de dépendance que l'action de la société provoque dans les consciences. Par elles-mêmes, ces émotions ne sont liées à l'idée d'aucun objet déterminé, mais parce que ce sont des émotions et qu'elles sont particulièrement intenses, elles sont aussi éminemment contagieuses. Elles font donc tache d'huile. Elles s'étendent à tous les autres états mentaux qui occupent alors l'esprit. Elles pénètrent et contaminent notamment les représentations où viennent s'exprimer les divers objets que l'homme, au même moment, a dans les mains ou sous les yeux. Dessins totémiques qui recouvrent son corps, bell rowers qu'il fait retentir, rochers qui l'entourent, sol qu'il foule sous ses pas, etc. C'est ainsi que ces objets eux-mêmes prennent une valeur religieuse qui, en réalité, ne leur est pas inhérente, mais leur est conférée du dehors. La contagion n'est donc pas une sorte de procédé secondaire par lequel le caractère sacré, une fois acquis, se propage. C'est le procédé même par lequel il s'acquiert. C'est par contagion qu'il se fixe, on ne peut s'étonner qu'il se transmette contagieusement. Ce qui en fait la réalité, c'est une émotion spéciale. S'il s'attache à un objet, c'est que cette émotion a rencontré cet objet sur sa route. Il est donc naturel que, de celui-ci, elle s'étende à tous ceux qu'elle trouve également à proximité, c'est-à-dire à tous ceux qu'une raison quelconque, contiguïté matérielle ou pure similitude, a rapproché du premier dans l'esprit. Ainsi, la contagiosité du caractère sacré trouve son explication dans la théorie que nous avons proposée des forces religieuses, et par cela même sert à la confirmer. En même temps, elle nous aide à comprendre un trait de la mentalité primitive sur lequel nous avons précédemment appelé l'attention. Nous avons vu avec quelle facilité le primitif confond les règnes et identifie les choses les plus hétérogènes, hommes, animaux, plantes, astres, etc. Nous apercevons maintenant une des causes qui ont le plus contribué à faciliter ces confusions. Parce que les forces religieuses sont éminemment contagieuses, il arrive sans cesse qu'un même principe se trouve animé également les choses les plus différentes. Il passe les unes dans les autres, par suite soit d'un simple rapprochement matériel, soit de similitudes même superficielles. C'est ainsi que des hommes, des animaux, des plantes, des roches sont censés participer du même totem. Les hommes parce qu'ils portent le nom de l'animal, les animaux parce qu'ils rappellent l'emblème totémique, les plantes parce qu'elles servent à nourrir ces animaux, les rochers parce qu'ils garnissent le lieu où se célèbrent les cérémonies. Or, les forces religieuses sont alors considérées comme la source de toute efficacité. Des êtres qui avaient un même principe religieux devaient donc passer pour avoir la même essence, et pour ne différer les uns des autres que par des caractères secondaires. C'est pourquoi il parut tout naturel de les ranger dans une même catégorie, et de ne voir en eux que des variétés d'un même genre, transmutables les unes dans les autres. Ce rapport établi fait apparaître sous un nouvel aspect les phénomènes de contagion. Pris en eux-mêmes, ils semblent être étrangers à la vie logique. N'ont-ils pas pour effet de mêler et de confondre les êtres, en dépit de leurs différences naturelles? Mais nous avons vu que ces confusions et ces participations ont joué un rôle logique et d'une haute utilité. Elles ont servi à relier les choses que la sensation laisse en dehors les unes des autres. Il s'en faut donc que la contagion, source de ces rapprochements et de ces mélanges, soit marquée de cette espèce d'irrationalité fondamentale qu'on est tout d'abord porté à lui attribuer. Elle a ouvert la voie aux explications scientifiques de l'avenir.